Décryptualité, semaine 3. Salut Manu.
Salut Luc.
Bon, tu es malade?
Oh, comment ça? Je viens de tout juste démarrer un rhume, rien à voir.
Gros sommaire cette semaine, hein. La semaine dernière il n'y avait rien, et tu leur as dit au boulot les gars, et hop, ils s'y sont mis.
L'appel a bien marché, parce qu'effectivement, on a pas mal d'articles qui sont tombés cette semaine, il y a eu du boulot. Donc, alors est-ce que c'est du bon boulot? Il faut voir, mais en tout cas, il y a des gros sujets qui sont sortis.
ZDNet France, après le rapport Botorel, des acteurs des logiciels libres demandent une stratégie publique. Un article de Thierry Noisette.
Donc c'est dans la continuation d'un sujet qui a démarré il y a quelques semaines finalement, qui a été beaucoup repris par-ci par-là, et par l'April aussi, nous,
oui.
On en a parlé, donc c'est un gros sujet, parce que l'open data, c'est intéressant de plein de points de vue, notamment pour l'avenir, et les politiques européennes, françaises, peuvent s'en dégager.
Le Monde.fr, à Bercy, une cellule d'informaticiens pour aider l'État à réguler les GAFA, un article d'Alexandre Picard.
Alors j'ai presque envie de rigoler parce que honnêtement ils sont mal barrés, ils ont une équipe d'informaticiens alors qu'en face ils ont du monde, mais alors ils vont être submergés par les équipes d'avocats qui sont de l'autre côté.
Oui, ça dépend ce qu'on leur demande de faire, mais déjà s'il peut y avoir des conseils techniques avec des gens qui s'y connaissent en technique de telle sorte que les pouvoirs publics soient pas complètement à la ramasse et à côté des problématiques techniques, c'est déjà pas mal.
Ce sera déjà pas mal, en tout cas bah, on leur souhaite bonne chance.
BlogNT, pour Microsoft, il est temps que les entreprises adoptent l'open source. Un article de Johan Poiron.
Alors, j'aime beaucoup l'image. T'as un Microsoft cœur open source. Je kiffe et j'adore la réaction de nos amis qu'on connaît et qui sont probablement en train de ne plus respirer, d'apoplexie, d'énervement parce que...
Microsoft, c'était notre ennemi favori.
Mais exactement. Et donc là, bah, ils se retournent en grand allié, grand amoureux, en tout cas d'après ce qu'ils disent, de l'open source.
Bon, on rappelle hein, que Microsoft continue à mettre des brevets logiciels partout, continue à surveiller abondamment les gens et que leur logique open source n'est pas une logique logicielle libre qui garantit les libertés des utilisateurs.
C'est quand même une évolution intéressante, hein, qu'on n'oublie pas et qu'on note régulièrement.
France Culture, Richard Stallman, inventeur du logiciel libre et penseur d'un Internet libertaire. Un article de Yann Lagarde.
Alors j'ai beaucoup hésité, parce qu'il y en avait un autre qui parlait aussi du même type de sujet, parce que, en gros, ce sont les 20 ans de Wikipédia, qui n'ont pas été beaucoup remontés dans les news. Et là, on rapproche ces 20 ans de Wikipédia et de Richard Stallman, qui mine de rien est un des initiateurs de l'idée dans sa forme actuelle. Il a créé, compris un projet concurrent à l'époque, Nupedia, pour faire pression sur le créateur de Wikipédia.
C'est parce qu'il dit a posteriori, parce que ça a raté.
Alors, il y a de ça, mais non, mais ça n'empêche, il a vraiment utilisé pour faire pression. Parce qu'en gros, il voulait un système décentralisé où les rédacteurs ne soient pas contrôlés par des entités centrales. Il voulait des outils libres, avec des licences libres, et c'est ce qu'on a aujourd'hui.
Oui, puisque avant Wikipédia, il y avait eu des projets hein, par le même créateur et qui visaient à avoir des experts et être dans un truc plus pyramidal. RFI, droit voisin, Google a signé un accord pour rémunérer la presse française. Un article de la rédaction.
Donc tout ça, c'est le sujet du droit d'auteur et des droits voisins, une sorte de bizarrerie.
Oui, alors il faut quand même qu'on admette que ces trucs, on a dit qu'ils y arriveraient jamais et que jamais Google ne les paierait. Hein.
Alors non, on n'a rien à admettre du tout. Effectivement, il y a des règlements européens et des lois françaises qui nécessitent, pour réutiliser des actualités, notamment les articles de presse, de payer aux entités correspondantes des droits. Et Google a dit qu'il ne le ferait pas. Et là, ils viennent d'entrer dans une sorte de pré-accord. C'est une sorte d'accord cadre, mais qui n'implique pas de paiement pour l'instant. Et pas de somme...
Il y a une partie qui n'est pas publique et potentiellement des tarifs. Mais ils n'ont signé qu'avec une organisation, donc c'est loin de couvrir toute la presse.
C'est un truc global. Hein,
voilà, ouais. Et on ne sait pas ce que ça va donner dans la réalité. En tout cas, ça a quand même fait un pas dans une direction. On a dit que ça n'irait pas. C'est un accord pour 3 ans. On verra la suite. Next Impact, François Pellegrini, élu vice-président de la CNIL, un article de la rédaction.
On note parce que François Pellegrini, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui vient du monde du logiciel libre.
Quelqu'un qui, quand il parle, dit toujours des choses très intéressantes, hein, qui est vraiment du côté intello du logiciel libre, donc on est très content de le voir là-bas. Le Monde informatique, des formations en gestion et stratégie open source par la Fondation Linux, un article de la rédaction.
Donc la Fondation Linux, c'est une sorte de melting pot de plein d'organismes, d'entreprises, d'associations et de personnes. Et là, bah, ils se lancent dans des formations plutôt pour les entreprises. Il y a des tarifs qui sont en jeu, qui n'ont pas l'air d'être super chers, il faut voir, ça se discute. Et c'est intéressant parce que bah, ça promeut des formes de pensée qu'on aime bien, le libre, l'agilité, des choses qui sont plutôt intéressantes.
Silicon, Open Hardware, l'open source à l'assaut des processeurs, un article de David Feugé.
Open Hardware, on en parle parce qu'en fait, ça reprend des idées de partage et d'innovation commune. On distribue à tout le monde, on a le droit, quand on fait de l'open hardware, bien de distribuer les plans, ce qui correspondrait quelque part à du code source, hein, si on fait des analogies. Et effectivement, bah, c'est bien que ça semble compliqué, il y a des microprocesseurs qui ont des plans qui sont libres.
Voilà, et c'est d'autant plus important qu'on soupçonne notamment Huawei de mettre des systèmes espions dans son matériel. Et que même sans vouloir espionner, il y a plein de systèmes de backdoor pour des questions de sécurité ou de choses comme ça. Et que si on ne maîtrise pas le matériel, bah, le logiciel libre, il est potentiellement pas si libre que ça parce que le contexte dans lequel il s'exécute n'est pas fiable et pas loyal.
Si on est un peu paranoïaque, hein, n'oublions pas, dans les microprocesseurs Intel, il y a un petit microprocesseur intégré dont on n'a pas accès vraiment en termes de conception, d'architecture et de code source. Et dedans, on ne sait pas trop ce que ça fait. Ça a l'air d'être un peu compliqué.
C'est tout un sujet qui ferait un sujet de podcast à l'occasion.
Paranoïaque, hein, mais bon.
Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On parle de quoi, du coup ?
Un sujet qui est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est quoi ? PEPCAC ?
PEPCAC, c'est un acronyme en anglais qui veut dire « Problem exists between keyboard and chair ». Donc, qu'on traduit en général en français comme « un problème d'interface chaise-clavier ». Donc, évidemment, ce qui se trouve entre la chaise et le clavier, c'est l'individu, c'est l'humain. Et donc, il dit que voilà, l'interface chaise-clavier, c'est tous les problèmes humains. Mais on voulait en parler d'un point de vue plus sécurité. La question de la sécurité est essentielle. Et puis là, il y a quelques petites affaires qui sont sorties les unes derrière les autres qui nous ont semblé assez intéressantes.
Alors, les petites affaires, petites, je ne sais pas si tu te réfères d'ailleurs aux institutions américaines qui se sont fait pirater depuis plusieurs mois en passant par des fournisseurs. Oui. Donc ça, c'est des problèmes qu'on a et qu'on aura encore, il n'y a pas de doute. Mm-hmm. Il y a des banques qui se sont fait avoir en Amérique du Sud.
Une institution financière au Brésil qui, en gros, vient de se faire piquer toutes ses données, donc relatives aux clients.
Des clients brésiliens.
Oui. Alors, c'est même plus que les clients, parce que si je me souviens bien, c'est une institution qui est là pour faire de l'évaluation sur la capacité financière des gens. Et donc, du coup, ils ont plus de données de gens qu'il n'y a d'habitants au Brésil, puisqu'ils ont également des données sur des gens qui sont morts. Toutes les données ont fuité, donc les coordonnées de contact des gens, voilà, leur état civil, etc. Mais également leur patrimoine, combien ils gagnent, etc., etc., puisque c'est des trucs financiers. Ce qui ouvre la possibilité à des escrocs de savoir qui cibler, potentiellement de faire du phishing, donc récupérer des informations personnelles, etc., pour accéder au compte. Mais comme là, ils savent qui est riche, ils n'ont pas besoin d'envoyer un mail standard un peu merdique. Ils peuvent voilà, avoir plein d'infos et viser une personne en particulier. Et puis après, tu peux avoir derrière des trucs purement crapuleux, hein, de type « j'enlève tes enfants et maintenant tu me files les millions ».
En Amérique du Sud, il paraît qu'ils ont un peu l'habitude. Il y a des gens qui prennent des assurances anti-kidnapping.
Doit dépendre des pays, mais bon, voilà, la délinquance au Brésil, là, ça existe.
Et donc, la sécurité, c'est quelque chose donc, effectivement, qui est partout. Hein, on en parle tout le temps. On est touché d'une manière ou d'une autre. Et on en parle régulièrement d'un point de vue technique. On dit, voilà, il y avait des failles, des backdoors, oui. Du matériel,
tout
des problèmes.
Ça parce qu'il y a des fainéants d'informaticiens qui font mal leur boulot. Quoi.
Alors oui, régulièrement, ou qui font leur boulot d'une manière, en tout cas... Il y a des failles et donc il faut les corriger et répandre un petit peu cette idée que bah on est dans un fort, il faut que les murs soient les plus solides qu'ils soient. Mais c'est pas suffisant parce qu'à un moment donné, comme tu disais, il y a toujours un humain qui intervient et t'es tombé sur un truc intéressant.
Oui, parce que dans le cas du Brésil, on n'a pas exactement le détail, mais effectivement, ça peut être encore une fois une faille technique, mais ça démontre bien que bah, les enjeux peuvent être très importants derrière. Mais en France, on a le bouquin et quelqu'un qui est en train de faire un petit peu de buzz et qui est assez connu et qui répond au surnom de Horus, qui est donc un ancien espion, enfin en tout cas un flic qui travaillait dans la partie renseignement de l'intérieur et qui a décidé d'arrondir ses fins de mois en vendant les données des renseignements sur le Darknet à qui voulait bien les acheter, donc probablement la pègre.
Il a gagné de l'argent, oui. Mais il s'est fait choper.
Voilà, et donc il a encore des procès en cours, il a déjà fait un an de prison. Et il sort un bouquin, je crois, il a sorti un guide pour expliquer que tous les systèmes d'écoute, etc., sur lesquels il bossait, sont mal compris par les avocats, et qu'en général, dans le cadre de la justice, les gens se faisaient un petit peu balader par la police et par les experts qui ne comprenaient pas comment ça marchait.
Donc là, on pourrait considérer qu'il essaye d'en ressortir quelque chose de positif, mais ça n'empêche qu'au final, le mec était corrompu, oui. Et que, bah, il a trahi ce pour quoi il avait embauché, ce pour quoi il travaillait, peut-être même pour la nation. Donc oui. Ça reste bien et bigrement choquant et gênant, donc c'est un peu normal qu'il fasse de la prison. Mais moi, ce que je retire, c'est que ça peut arriver un peu partout, et ça arrive un peu partout, ce genre de choses.
On peut avoir des tas d'affaires de ce type-là, il suffit de quelqu'un de malhonnête, et je pense que dans nos vies, on a à un moment ou un autre croisé quelqu'un qui était malhonnête, qui a tenté un coup, bon, il y en a potentiellement plein qui l'ont fait et dont on n'a jamais entendu parler, des abus de biens sociaux, des machins comme ça, oui.
Moi, je me rappelle de cas de banques suisses, qui sont quand même supposées être des forts imprenables, où les autres États ne peuvent pas aller voir ce qu'il y a derrière, hein. C'est une vie privée qui est hyper forte et bien défendue. Eh bien, les Suisses gardaient des comptes allemands, notamment chez eux, comme ça se fait régulièrement, et l'Allemagne voulait savoir un petit peu ce qu'il y avait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont payé un employé d'une banque suisse pour obtenir des listings sur les citoyens allemands. Ça a marché. Et ils l'ont payé bien et cher. Mais ben, ils ont réussi à sortir des données auxquelles, d'habitude, ils n'avaient pas accès. Donc là encore, ben, ils sont passés par une faille humaine.
Et des fois, on a des gens qui font ça et on n'appelle pas ça des malfrats. On appelle ça des héros. Mais après, c'est une question de point de vue. Quelqu'un comme Edward Snowden, par exemple, est typiquement la faille humaine, un type qui est travaillé par sa conscience et qui se dit « le truc auquel je suis en train de participer est absolument abominable, le monde doit savoir ». Mais effectivement, si tu te places du côté des espions américains, ce mec est un traître et je pense qu'il lui mettrait bien une balle dans la tête.
Alors ça fait partie de ces trucs où ça se discute et on sait que depuis quelques dizaines d'années maintenant, il y a des principes même qui sont au-dessus des lois ou des règlements. Des principes moraux, et si on y déroge, on est coupable. Juste le truc de dire « j'ai obéi aux lois, j'ai obéi à mon chef », ça ne suffit plus.
Alors ça ne suffit plus quand tu te retrouves dans le cadre d'un procès de gens qui reconnaissent que c'était effectivement un problème. Par contre, quand tu es dedans, et c'est le cas aujourd'hui de Snowden et de plein de lanceurs d'alerte, c'est que quelqu'un qui s'expose en étant lanceur d'alerte, il se fait ruiner par les gens qu'il est en train de dénoncer. Et avant qu'il ait du soutien et qu'on lui dise « ah oui, en fait, t'avais raison », eh ben, sont souvent des gens qui se font laminer par le système.
On pense à Assange. Lui, c'est un exemple. Alors, c'était un troublion. Hein. Il était pénible pour tout le monde, y compris pour ses alliés. Donc, il a vraiment embêté tout le monde. Mais il a été puni. Il a été mis en prison dans une cage dorée, dans une ambassade à Londres.
Oui, pas si dorée que ça. C'est juste que c'était la cage qui n'était pas tout à fait celle des gens qui voulaient mettre en taule. Mais c'est là où il a pu se réfugier, effectivement.
Et finalement, il a été chopé et mis dans une prison réelle. Ceci dit, là, son extradition aux États-Unis a été bloquée pour l'instant.
Oui. Voilà, mais pas sur des questions juridiques ou de sa culpabilité, c'est simplement ils disent qu'il n'est pas en état d'y aller, que son état de santé est trop fragile et que les conditions de détention aux États-Unis sont telles que ça risque de l'achever.
Donc on constate, le système se retourne contre les gens qui ont essayé d'aller à son encontre, et donc lanceur d'alerte ou personne corrompue, dans tous les cas, on risque de se prendre la machine sur le nez. Quoi.
Et voilà, et c'est le problème, c'est que on imagine bien qu'un truc comme la NSA, c'est censé être super sécurisé, on est censé surveiller les gens. Alors peut-être que comme Snowden était le premier, il a bénéficié de facilité pour ça, mais on voit comment le top du top et les trucs qui sont censés être les plus secrets, finalement, restent vulnérables à un individu qui décide de faire péter le système, en fait.
Alors, moi, quelque part, j'y trouve quelque chose. Alors, il y a du négatif, mais il y a du positif, parce que tout ça dépend des individus. Les règles, les systèmes, les mécanismes qui sont en place, c'est une chose, et c'est important qu'on en ait. Les institutions, les droits, les constitutions sont là, et c'est important, mais à un moment donné, ce sont les individus qui les mettent en place, ou ce sont les individus qui décident de outrepasser ces règlements, et donc on dépend d'eux, et on dépend de leur intégrité et de leur force morale. Donc moi, j'en vois quelque chose de positif.
Oui, ou de leur
tout.
Force immorale aussi. Tu peux imaginer que les choses tournent très très mal parce que y a un type qui a décidé de revendre toutes tes données et que après tu te fais escroquer, racketter par des gens malhonnêtes.
Alors toi, si on te donnait des pouvoirs phénoménaux, tu te sentirais d'être intègre jusqu'au bout et on pourrait jamais te corrompre ?
Exactement.
C'est vrai, certainement.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on me mette en situation. Donnez-moi du pouvoir et plein d'argent, et je pense que moi je suis pour l'expérimentation. Je pense qu'il faut tester, il n'y a pas d'autre moyen.
Bon, alors là je viens de changer d'avis, je pense qu'il faut tout vérifier. On a confiance certes, mais on vérifie avant, on vérifie après, on vérifie pendant. Donc je veux voir ton patrimoine, je veux voir tous les trucs dans lesquels tu es engagé. On vérifie, et donc il faut suivre un petit peu, pas juste avoir une confiance aveugle dans les gens. Il y a des mécanismes pour éviter un peu la corruption. Effectivement, on vérifie les patrimoines des gens, mais aussi on s'assure qu'ils ne soient pas toujours au même endroit. Par exemple, on va faire tourner les responsabilités, on va s'assurer que les gens ne sont pas là où ils ont été élevés, par exemple, et qu'ils vont aller à un autre endroit. On va changer les postes régulièrement, s'assurer que
puis
les gars...
Faire des contrôles au niveau des comptabilités, ce genre de choses quand on est dans ce genre de système. Mais après, typiquement, sur ce genre d'infos, c'est problématique. Je pense aussi, et par rapport à cette question de la police également, j'avais lu des articles qui disaient qu'il y avait des abus, donc avec pas mal de policiers qui allaient choper des infos... rend des services à des amis, on parlait d'un type, il était intéressé par une femme, et donc il est allé dans le fichier pour savoir où elle habitait, ce qu'elle faisait, etc. Et dès lors qu'on tolère ce genre d'utilisation hors cadre, ou qu'on dit le fichier, n'importe qui peut l'ouvrir, et on ne met pas de règles, on se met aussi dans des situations où on favorise les gens qui déconnent vraiment, et où ça va être beaucoup plus difficile de les détecter, puisqu'on tolère plein de cas limites.
Dans tous les cas, donner sa confiance à quelqu'un, pourquoi pas, mais vérifier, il faut le faire.
Très bien. Tu me fais confiance pour ne pas déformer tes propos en remontant le podcast pour te faire dire l'inverse de ce que tu penses.
Bien sûr.
Voilà, je ne le fais jamais, ça n'est jamais arrivé.
Jamais.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.